idéal? Festival multidisciplinaire où sciences et arts s'entremêlent. Curiosité vie étudiante donne la parole aux artistes de la programmation pour une émission spéciale au TU de Nantes.
Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans Curiosité vie étudiante, une émission faite par et pour les étudiantes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée très spéciale. Prune est actuellement au théâtre universitaire pour couvrir le festival Idéal. L'ETU Nantes lance la deuxième édition de l'événement qui croise art vivant et science à travers spectacles, discussions, concerts, performances et conférences. Le festival a débuté le 27 février et dure encore jusqu'au 17 mars. De nombreux artistes, chorégraphes, metteurs, metteuses en scène, mais aussi maîtres et maîtresses de conférences et chercheuses se sont réunis pour discuter du lien entre art et science. Nous en avons interviewé plusieurs pour comprendre comment il et elle appréhendent, travaillent, présentent et représentent cette rencontre entre les sciences et les arts. Dans cette émission, vous retrouverez la maîtresse de conférence Nidia Alvarez qui nous parlera de la conversation « Vie et mort des parasites » réalisé en collaboration avec le metteur en scène Thibaut Croisy, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Une interview réalisée par Manon. Ensuite, comme d'habitude, dans Curiosité, vous retrouverez Anthony, qui cette semaine nous offre un stand-up scientifique à l'occasion du festival Idéal. Elle sera suivie de près par une seconde interview de Valeria Giugia, chorégraphe et créatrice de l'installation La Machine, une borne d'arcade en accès libre qui propose des chorégraphies à reproduire, mise en place depuis hier dans le hall du TU. Enfin, nous retrouverons exceptionnellement une troisième interview menée par Constance. Elle a rencontré la comédienne Sophia Teillet pour sa conférence-spectacle de la sexualité des orchidées. On retrouve sans attendre Manon pour notre première immersion au cœur du festival Idéal. C'est parti pour Curiosité vie étudiante au TU.
Curiosité vie étudiante au TU de Nantes pour le festival Idéal.
Bonjour Nidia Alvarez, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes chercheuse en biologie avec Thibaut Croisy, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Vous êtes ici pour nous parler de votre conférence-performance autour de l'univers des parasites, de leur vie et de leur mort. C'est une création artistique et scientifique qui aura lieu aujourd'hui, 14 mars à 18h30 au Théâtre universitaire et le vendredi 15 mars à 13h à la Bibliothèque universitaire à l'UFR de pharmacie. Alors d'abord, vous formez un duo avec Thibaut Croisy qui associe la science, la biologie et l'aspect artistique. Comment vous est venue à l'idée de lier science et art et quel était votre objectif?
Bonjour, tout d'abord je suis ravie d'être avec vous. Je suis très contente de partager en fait ce moment avec Radio Prune. Merci pour l'invitation. C'est une initiative que l'université a démarrée il y a déjà un petit peu plus d'un an, où elle cherchait des enseignants-chercheurs de différentes disciplines pour interagir avec des artistes et nous faire rencontrer. Mais il est vrai que quand le centre de développement pédagogique de l'université cherchait les collègues, un peu à droite et à gauche et dans les différentes disciplines et pôles, il fallait en effet que chacun ait une sensibilité particulière pour le monde artistique. Donc c'est vrai que je ne pratique pas d'art, je connais presque peu en fait, j'aime l'art, les différentes formes, mais j'y connais pas grand-chose. Ceci dit, j'avais été très touchée en termes de pédagogie par la façon dont laquelle les étudiants appréhendent et s'imprègnent des connaissances et des compétences, de lors qu'on peut faire un pas de côté et de temps en temps prendre un peu de recul et souvent des manifestations artistiques et des manifestations un petit peu créatives permettaient à mes étudiants en pharmacie, comme tu l'as dit, de s'imprégner et puis de s'intéresser beaucoup plus à ça. Et donc finalement, la rencontre avec Thibaut est une proposition faite forcément avec le théâtre, le TU, le CDP, et nous avons fait une toute première rencontre, on a discuté. J'avais cette sensibilité par les parasites, mais qui n'était pas forcément figée. Et lui, il s'est intéressé aussi à cette question-là, mais on ne savait absolument pas où on allait.
Justement, c'était ma prochaine question. Comment vous avez arrêté votre choix sur l'univers des parasites? Est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait?
Dans ma pratique pédagogique, je suis en charge des cours de parasitologie et de mycologie médicale pour les étudiants en pharmacie. Et donc, c'était l'occasion finalement d'imager au sein de cette discipline. Je comprends que la parasitologie de temps en temps crée des histoires, parce qu'en fait ces organismes vivants qui sont un peu partout, qui nous entourent, ont des tailles, des formes diverses et variées, et souvent il y a une notion à l'intérieur de la discipline qui s'appelle les cycles de vie. Et donc, ça fait un peu des histoires sur lesquelles on peut imaginer beaucoup de choses. Et donc, j'avais proposé ce terrain-là de recherche, mais il fallait en effet qu'un artiste s'intéresse à cette question, parce que ce n'est pas forcément facile. Mais bon, finalement, Thibaut, comme quoi il y a toujours quelqu'un pour s'intéresser à un sujet, Thibaut a accepté de travailler sur ce sujet.
De quelle façon vous avez travaillé pour rendre intelligible un discours qui est donc à la croisée des sciences et des arts?
C'est une question super importante et je ne saurais pas vraiment me dire que je saurais la répondre correctement, mais le processus, il s'est fait naturellement. Nous avons beaucoup discuté, comme tu dis, et c'est un discours qui a été fait de questions. Il m'a pas harcelé, mais on s'est harcelé mutuellement avec des questions pour nous connaître. Nous avons beaucoup parlé des parasites, des parasites dans le théâtre, des parasites parce que c'est aussi une figure qui est représentative et caractéristique au théâtre. J'ai découvert ça. Et moi, je lui ai présenté mes salles des cours, mes parasites, mes bocaux, tout ce que j'utilise dans la discipline. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça, par la discussion, par les échanges. Et ensuite, il prend beaucoup de notes. Et il a une mémoire extrêmement impressionnante. Et en fait, à chaque fois que je l'ai rencontré, alors... on dématérialisait, hein. C'était aussi des visios qu'on pouvait faire à Nantes, etc. À chaque fois, il me ramenait un souvenir de la rencontre précédente. Et donc, finalement, il a construit tout un... ça s'est construit finalement il y a peu de temps, mais on a construit un discours un peu grâce aux échanges.
Quels sont les points communs, selon vous, entre le scientifique et l'artiste, et au contraire, les différences primordiales?
Tu me poses des questions. J'ai été impressionnée au départ, quand j'ai rencontré Thibaut en pratique, en physique, par sa méthode. Il y a une méthode. Il a une méthode, en tout cas, pour la prise de notes, pour la construction du contenu d'abord, le contenu de ce qui va être créé, avant même la forme que ça peut prendre. Et donc ça, c'est une méthodologie qui m'a beaucoup intriguée, parce que de temps en temps, nous, on est dans nos recherches beaucoup sur la forme que le résultat scientifique va pouvoir prendre, etc. Mais on n'est pas... on a une méthodologie légèrement différente par rapport à ça. Ensuite, ce qui m'a impressionné en termes de méthodologie de travail, c'est quand on a fait les répétitions ce week-end. Encore une fois, il a une façon de conduire, déstructurer un texte et le travailler étape par étape, tellement déstructuré que bah, mentalement, j'ai été fatiguée. Mais en fait, ce texte-là, il prend vie, son texte a pris vie, mais parce que, en fait, il l'a décortiqué en étape par étape et il nous a permis d'aller vers une construction fluide, etc. Et en termes de différence, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux univers. Franchement, j'ai...
Est-ce que pour créer ce spectacle, vous avez parfois dû faire des compromis entre les aspects rationnels et objectifs et les aspects plus créatifs qui peuvent être, vous éloignent de la façon dont on doit travailler et transmettre en tant que scientifique ?
Oui, oui, oui. On s'est éloigné, il m'a un peu éloigné. Hein. Il ne voulait pas, et je pense qu'au fond, moi non plus, que ça ressemble à un cours, une restitution d'un cours, ou voir tout simplement une pièce jouée. Donc là, ce que vous allez voir peut-être aujourd'hui, demain ou un autre jour, hein, peu importe, ça va être de rester le plus naturellement possible, que ça soit vraiment un dialogue entre nous. Par moments, il y a un peu de vrai. Mais il y a beaucoup d'imagination, un imaginaire qui s'est construit en fait autour de ça. Et finalement, je vais quand même proposer aux étudiants de pharmacie de se saisir de notre performance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de notre conversation, de se saisir de ce discours-là pour trouver des choses scientifiques ou on va dire biomédicales que l'on attend d'eux. Et donc, je vais m'en servir quand même avec un objectif pédagogique. Mais ils vont trouver, pour des étudiants de pharmacie, de santé, ils vont trouver ça un peu cartésien, finalement, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est ça, l'ouverture.
Justement, est-ce que vous diriez que l'art peut rendre plus compréhensible des choses scientifiques ?
Oui, je suis convaincue. Je suis convaincue maintenant, c'est un levier, c'est un tremplin. Mais je ne voudrais pas que l'art en fait soit vu comme un outil pédagogique. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt mutuel, il faut qu'il y ait un dialogue, un échange, qu'aucun se sert de l'autre plus qu'il en doit. Qui est vraiment, je pense qu'il en tire des choses, hein, Thibault, pour son univers à lui, peut-être. Hein, il va peut-être utiliser certaines choses, je ne pourrais pas me parler à sa place. Mais moi, dans tous les cas, de ce que j'ai appris de lui, de ce que je suis en train d'apprendre, je pense qu'on peut s'en saisir, apprendre et puis les utiliser.
Est-ce que vous aviez déjà eu recours à d'autres types de médiation pour rendre accessibles vos travaux ?
Oui, on fait ça en salle de cours, un peu avec les moyens de bord. Les travaux pratiques, comme on appelle ça en parasitologie, depuis quelques années, je propose une séance un peu créative où les étudiants s'expriment autour des affiches. C'est en fait des travaux pratiques graphiques où ils doivent représenter, faire comme des fiches, mais on leur laisse une telle liberté qu'ils peuvent même écrire sur les paillasses. Je ne sais pas si vous voyez les paillasses de laboratoire qui sont en vert, ben on leur permet avec des Posca, etc. C'est loin d'être une manifestation artistique, mais c'est une autre façon de faire un petit pas de côté et d'appréhender le cours différemment. Mais c'est tout.
De plus en plus de personnes se tournent vers des métiers alliant art et science. Nous pouvons citer les illustrateurs médicaux, architectes, artistes, etc. Comment l'expliquez-vous ?
Je sais qu'il y a différents courants. Certains collègues diront que l'art, il faut que ça reste une expression artistique et que l'art n'est pas là pour servir la science ou devenir un objet de médiation, mais si certains artistes en fait ont ce sentiment de vouloir à travers leurs expressions transmettre et figer des connaissances scientifiques ou les vulgariser ou en faire quelque chose de plus acculturable, et ben il y a pas de raison en fait qu'il y ait pas ce type de manifestation. Et je pense que c'est quelque part une évolution naturelle hein, pour les collègues qui utilisent, qui allient art et science. C'est quelque chose d'assez naturel parce que derrière des connaissances scientifiques, il y a beaucoup d'imagination et les hypothèses en fait avant de les vérifier. Ce sont des idées. Et donc ces idées relèvent d'un imaginaire qui peut être beaucoup basé sur ce qui est connu, mais certains moments il faut rêver, hein, aller à la Lune, enfin ça c'est pas fait comme ça, donc ça pourrait être un tableau, et aujourd'hui pourtant on est déjà allé à la Lune.
Est-ce que le mariage des arts et des sciences se manifeste aussi selon vous dans nos vies quotidiennes, peut-être sous des aspects auxquels on n'aurait pas pensé ?
Oui, mais faut-il encore être sensible à le voir, à le percevoir ? Je pense qu'on est tous... On a tous été à un moment donné touchés dans notre quotidien par cet aspect-là, science et art. On a toujours envie de... Et, ou on l'a fait sans vouloir, sans savoir, sans être, on va dire, conscient.
Pour revenir à votre conférence, est-ce que vous imaginez retravailler à de tels formats dans le futur ?
En fait, on n'a jamais le temps d'écrire des pensées qui nous traversent et qui peuvent être aussi des façons d'écrire, des façons de communiquer auprès de la communauté, enfin des étudiants de la communauté universitaire, des façons de communiquer qui sont différentes. Mais ceci dit, il faut quand même avoir une capacité à écrire de cette façon. Je pense qu'on peut, sur des formats courts. Thibaut est un artiste, enfin, il a une capacité à écrire qui est impressionnante. Et donc, oui, il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Que de là, un scientifique, il faut qu'il y ait une certaine ouverture. Mais je pense que ce travail-là avec un artiste a été pour moi primordial. Quoi. Voir comment il construit ça, comment le temps, la notion du temps pour un artiste, ça c'est quelque chose, nous on est sous la contrainte des fois, mais lui il ne s'est pas laissé emporter par les contraintes qui étaient celles temporaires, parce qu'il faut que le cerveau repose, il faut que les idées reposent, et il a insisté sur ça, et je trouve que c'est bien qu'il ait forcé les choses à se faire de façon plus naturelle possible.
Merci de nous avoir accordé du temps. Nous invitons nos auditeurs et auditrices intéressés à réserver leur place sur Internet et à profiter de cette performance.
Ben merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et à une prochaine, peut-être.
Merci encore, Manon, pour cette super interview. Merci aussi à Lydia pour nous avoir consacré votre temps. C'était très intéressant. On rappelle que la conférence Vie et mort des parasites se déroulera aujourd'hui à 18h30. Mais également demain à 13h. On espère vous voir nombreux. Tout de suite, on retrouve la chronique scientifique d'Anthony.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Au départ, je pensais que le Festival Idéal aurait dû m'appeler pour participer au stand-up scientifique. Faire des blagues pendant les cours, c'est ma passion depuis maintenant trop longtemps. Et j'étais parfaitement dans le thème. Puis je me suis rappelé que ça fait 6 ans que je suis à la fac et que je suis toujours en licence, donc je comprends mieux pourquoi on m'a pas sollicité. Pourtant, en 6 ans, j'aurais pu être en doctorat, faire des blagues pour le festival, mais non. À la place, j'ai choisi de faire 2 licences, d'être bac +3 +3. La retraite, c'est donc pas pour moi, officiellement. Un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que je prends mon temps. 2 licences en 6 ans, c'est vouer un culte à la lenteur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis contre le jet privé, d'après l'ancien ministre TikToker des Transports. Hein. Du coup, comme je peux pas faire de blagues sur ma thèse, vu que j'en ai pas, j'ai décidé de faire des blagues sur un sujet que je connais bien, l'échec, visiblement. Donc tout a commencé lors de ma première année d'histoire en 2017. J'étais jeune et inconscient du haut de mes 16 ans. Après un an passé à dormir en cours quand il n'y avait pas blocus, ou un an à dormir, donc je serais une star chez les ours, hein, vraiment. Et donc j'ai décidé d'arrêter l'histoire, validant tout de même mon année. Je suis donc parti en licence de chômage, plus connue sous le nom de licence de lettres modernes. Là c'était bien, on lisait des livres, on faisait des blagues, on faisait surtout des blagues d'ailleurs. Les gens d'ailleurs en avaient marre que je fasse des blagues, donc... Bah voilà, hein. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme dirait Shakespeare. Après, le problème des lettres, c'est que quand tu veux pas être prof, bah t'as plus que deux choix, à savoir devenir chômeur ou devenir prof quand même. Après, mon avis sur les lettres était peut-être un peu biaisé par les confinements, glorieux moments, où on a tous pris le rythme des décroissants, sauf les métiers utiles qu'on embrasse et qu'on paye en visibilité, hein, d'après le gouvernement. Bon courage à eux pour les 2 ans de plus, d'ailleurs. Et ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Après les lettres, j'ai donc décidé de faire 2 ans en histoire de l'art. Enfin, j'ai décidé, c'est pas moi qui ai décidé, c'est eux qui m'ont dit « Ok, on te prend parce que t'as pas eu de master ». Encore une fois, je suis quand même un sacré visionnaire, ne pas avoir de master 2 ans avant la plateforme Mon Master qui va mettre des milliers d'étudiants sur le carreau. Je suis vraiment un gars en avance sur mon temps. Même quand je suis au ralenti, finalement, je vais trop vite. Ou alors c'est juste que je suis totalement déconnecté, on sait pas. Et donc, l'histoire de l'art, c'est sympa, on s'amuse bien, entre deux burn-out, évidemment. On joue à apprendre les noms de tous les spécialistes d'art médiéval, par exemple. Si avec ça, j'ai pas de master, je ne comprends pas. Après, c'est sympa, on apprend des choses, notamment que les femmes n'existaient pas avant les années 70, et je parle bien de 1970, ou alors elles étaient environ 10, donc on n'est pas sur une licence très, très tournée vers le wokisme. D'ailleurs, quand on court le plus wok, c'est sur des photos de cadavres prises pendant la guerre de sécession, ça ne peut qu'aller bien de toute façon. Voilà, j'ai donc fait des blagues sur ma recherche d'avenir principalement, puisque le temps perdu s'était déjà pris par Marcel. Bonne recherche d'avenir et de master à toutes et tous, tous ceux qui recherchent bien évidemment.
Festival idéal, zone d'hybridation entre science et art vivant, dans Curiosité, vie étudiante, sur Prune.
Merci Anthony pour ce stand-up scientifique. Sans plus attendre, on écoute la chorégraphe Valeria Gioggia nous parler de son installation La Machine, qui, je le rappelle, est une borne d'arcade où les étudiants peuvent découvrir et reproduire des chorégraphies. C'est parti! À première vue, l'art et la science semblent être deux notions éternellement séparées, mais ces deux concepts sont plus proches que nous le pensons. Du 27 février au 17 mars, le festival Idéal renverse les clichés, provoque des dialogues entre équipe artistique et équipe scientifique et remet les savoirs en jeu. Et aujourd'hui, nous recevons donc Valéria Gyuja. Valéria a conçu l'installation La Machine, actuellement en place au festival Idéal, et chorégraphie les pièces de la compagnie Lapkin depuis 2016. Donc bonjour Valéria.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement votre parcours de chorégraphe ?
Oui, alors j'ai commencé la chorégraphie en 2016 pour la compagnie Lapkin avec un travail lié à la notation du mouvement que j'ai étudié auparavant au CNSM de Paris pendant 4 ans. Et donc mon travail chorégraphique a été depuis le début d'interroger ce système d'écriture du mouvement et en créant toute la partie créative que ce système permet et aussi surtout travailler la danse comme un texte et pour cela je me suis associée à la mesure de création avec des écrivains contemporains.
D'accord. Et dans ce festival, on vous doit l'installation donc La Machine, c'est un algorithme qui s'empare d'une borne d'arcade pour proposer des chorégraphies à reproduire. Est-ce que vous pouvez décrire avec vos mots ce qu'est la machine et comment on peut l'utiliser?
Donc cette machine, elle naît d'une envie de travailler les bornes de jeu arcade que tout le monde connaît et réinventer cet outil pour avant tout toucher un public large, le plus large possible, un public jeune. et le sensibiliser à cette écriture. Déjà faire connaître aux gens que l'écriture de la danse existe, mm-hmm. que la danse peut se noter, et puis de partager des courts extraits très brefs de chorégraphies notées, et du coup traverser les 20e siècle avec des esthétiques très différentes et avoir des références pour des chorégraphes contemporains plus ou moins connus.
D'accord.
Donc elle a une double visée, elle a la visée pédagogique culture chorégraphique et la visée partage du savoir, de la notation, tout en étant extrêmement ludique et respectant les règles du jeu. Donc, il faut jouer pour gagner et il y a un jackpot à la fin pour que le jeu il soit un jeu avant tout.
Alors, du coup, l'idée, c'est un peu tourné vers la jeunesse, vers les étudiants. Et du coup, vos inspirations derrière la... Est-ce que vous aviez des inspirations particulières derrière la création de cette installation ?
Je pense que c'était avant tout cette notion de jeu, du jeu chorégraphique qui était le moteur de cette installation. D'une part, par le fait de l'écriture qui peut être code, donc il peut vraiment évoquer la question du code, du codage, même si, je vous avoue, elle a l'air très technologique, mais elle n'est pas vraiment. C'est de la triche, hein, c'est de la grosse triche, mais ça fonctionne très bien. Les gens imaginent que la machine leur parle, qui les regarde, mais pas du tout. Mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est vrai que la notion du jeu, c'est ce qui nous a poussé à réaliser cette machine avec toute l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, un travail de compagnie.
Et alors, comme je l'ai dit un peu plus haut, la machine, c'est un algorithme. Alors, vous dites que c'est de la triche. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ? C'est-à-dire, comment elle a été construite
Donc, en fait, la machine, elle propose une expérience sur 6 minutes environ. Et c'est une expérience à étapes. Donc, on commence cette expérience par un premier échauffement qui est avant tout un échauffement guidé par la voix et par les symboles. Ensuite, il y a un deuxième échauffement où d'autres symboles apparaissent. Quand je parle des symboles, j'entends des symboles d'annotation du mouvement. Mm-hmm. Et on va plus loin dans l'expérience du corps. Donc, on part d'abord sur des symboles de direction, puis des symboles de corps. Et on finit cette expérience par apprendre la danse qu'on sélectionne. Donc, à chaque étape de ces jeux, nous sommes moteurs en appuyant sur les boutons rouges, qui est un énorme bouton rouge au centre de la machine. Et la troisième étape, c'est de choisir une danse et un danseur. Et la danse qui en découle, donc cette brève chorégraphie, et on la répète de plus en plus vite. Pour finir, c'est là où il y a la grande triche, en dansant cette danse, qu'avec la partition. Donc, il y a un trompe-l'œil qui s'effectue sur la fin, celui-là de avoir la sensation de pouvoir lire la danse. Et pour finir, évidemment, il y a les jackpots, comme je vous disais. En fait, il faut appuyer sur les boutons rouges, jackpot, on gagne, on perd. Mais en tout cas, on repart tous avec un petit ticket qui est imprimé avec la partition des danses que nous avons effectuées. Et sur ce ticket, il y a plusieurs informations. Donc, la partition effectuée et les liens vers le site internet qui est lié au travail de la machine, dans laquelle il y a toutes les informations du chorégraphe, mais de tous les autres chorégraphes présents, ainsi que au travers d'un petit code, vous pouvez retrouver votre danse et répéter chez vous cette danse.
D'accord. Alors, est-ce que c'est une œuvre spécialement créée pour le Festival Idéal ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ?
Non, alors, cette œuvre a été créée en 2020. Mm-hmm. Elle tourne beaucoup. En fait, il y a deux machines qui existent, donc la machine de la compagnie et puis celle qui est au Festival Idéal. C'est la machine qui a été acquise et qui fait partie de la collection du FRAC de Franche-Comté, de Besançon. Et donc, elle n'était pas conçue pour ce festival, mais elle existe en deux exemplaires et elle tourne beaucoup. En ce moment, il y a une machine à Toulouse et une machine à Nantes.
Alors, dans ce festival, on vous doit également la performance Power Up, une chorégraphie participative qui donc créée à partir de l'installation La Machine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette performance ?
Alors, je vais vous annoncer malheureusement que cette performance qui devait avoir lieu le 15 mars a été annulée à cause de la grève.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si... Enfin, on peut discuter de cette performance.
Bien
on
sûr.
On essaye de la reprogrammer plus tard, parce que la machine, elle va continuer son cours, elle sera installée au FRAC de Nantes. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'avec cette machine, il y a plusieurs performances qui sont connectées. Donc, il y a un duo que nous avons lancé en début février à Nantes, qui s'appelle Mécanique. Dans lequel je danse avec le poète écrivain James Chaton. Et ensuite, il y a cette performance Power Up qui est pour trois danseurs et un groupe d'amateurs. Donc, cette performance, elle vient d'un travail de melting pot, de réagencement, de réinterprétation de toutes les danses présentes dans la machine. Et donc, il y a un langage qui se mélange et se réinvente. Et les danseurs, ils interprètent ces multitudes, ces gestes démultipliés. Ce qui est assez plaisant pour le public quand on a joué à la machine, c'est justement de retrouver cette danse et retrouver les références qui sont connectées. Et ensuite, le travail, c'est d'intégrer à ces trois danseurs un groupe de danseurs amateurs qui travaillent avec nous 2 heures en atelier. Donc, c'est assez rapide et ils démultiplient le geste. Donc, le travail a été de s'inspirer fortement des danses chorales des années 30. Donc, c'était des danses amateurs que certains chorégraphes tels Mary Wigman, Albert Knust ont créé dans les années 30 et qui travaillent sur des gestes simples qui se répandent au sein d'un groupe nombreux et qui sont très efficaces. Donc, on parle de mouvements en canon, de lissons, des figures de groupe. Et donc, voilà, la fin de cette performance est inspirée de ces danses-là.
Alors, vous disiez tout à l'heure que la machine, c'est un travail d'équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dite équipe ?
Donc, en fait, on travaille avec la compagnie, on travaille toujours en équipe. Les rôles sont tous mélangés. Il n'y a pas de hiérarchie vraiment, vraiment présente. Donc, pour la machine, j'ai collaboré avec Liz Dainac, qui est chargée de production et de direction à la compagnie. Évidemment, tous les danseurs qui sont présents dans la machine, je vais les citer, et qui font partie de la performance, Antoine Arbeit, qui d'ailleurs est présenté un de ses pièces dans le cadre du Festival Idéal, Fanny Serantari, Marie-Charlotte Chavalier, Agnol Busquet-Julia, puis il y a Noël Simonet, qui est la directrice et fondatrice de la compagnie, qui est également présente en tant que danseuse dans la machine. Et nous avons collaboré avec une plasticienne qui s'appelle Claire Paulet, qui a réalisé toute la partie logicielle de la machine et réalisation de la machine. Ensuite, nous avons travaillé avec Andy Moore, guitariste du groupe DX pour les musiques, et le poète Angèle Chaton pour tout ce que c'est texte et la poésie, en fait, qui est dite par la machine au moment où la machine n'est pas actionnée par les joueurs.
Alors, ce festival, c'est surtout pour parler un peu du lien entre les arts et les sciences. Est-ce que, selon vous, le lien entre les arts et les sciences, c'est quelque chose qui est évident ou c'est quelque chose qui reste encore à développer ?
Pour moi, il y a une évidence qui est celle du fait que l'art et les domaines de chacun, elle doit être perméable à d'autres formes de recherche. Donc là, pour moi, c'est de la recherche et le fait d'aller chercher aussi des nouvelles formes telles que des installations ou la création que je suis en train de faire en ce moment, c'est la création d'un logiciel, d'algorithme qui, pour traduire encore de la langue en signe. En tout cas, du moment où on recherche, on est obligé d'aller vers d'autres territoires, vers d'autres savoirs. Et donc, je trouve que les sciences font partie d'autres savoirs qui peuvent influencer une création, ils peuvent l'inspirer, ils peuvent même être moteur de création. Donc, oui, tout à fait. Mais il faut creuser les savoirs, c'est fondamental.
Alors, d'après vous, est-ce que l'art peut permettre à la science d'être un peu plus accessible ? Parce que les sciences, mine de rien, c'est quelque chose qui parfois peut sembler un peu fermé à certains.
Vous savez, moi, je suis fille de deux profs d'analyse mathématique. Et effectivement, il y a des choses qu'elles sont pas compréhensibles au premier abord. Et les systèmes de notation de la danse, c'est pareil. Hein. C'est des choses qui peuvent effectivement sembler hermétiques. Donc, c'est le travail de chacun à l'endroit où on est de rendre accessible un savoir. Je ne sais pas si l'apport de l'art peut aux sciences aider à cette ouverture, mais je pense que les discours ils s'appliquent également à certains savoirs en art. Donc, je dirais que c'est la volonté de chacun d'être dans une envie de partage et construire en fait ces outils pour pouvoir partager et au plus grand nombre. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, pour mon point de vue, par rapport à ce système de notation qui est très méconnu et qui est souvent critiqué parce que on comprend pas si on peut tout noter en danse, si l'interprétation elle est notable, on se pose plein de questions. Mon travail à l'endroit où je suis, c'est de construire des machines, les rendre accessibles et faire comprendre que même si ça a l'air complexe, il y a certains concepts de cette de ce système de notation qui peuvent être compris mais par tout le monde et chacun d'entre nous peut s'emparer de telle ou telle idée pour son propre travail de recherche. Mmh.
Et c'est l'accessibilité, la même accessibilité du coup auquel vous ouvrez les étudiants avec la machine, puisque c'est accessible à tous.
Oui,
c'est un véritable accès.
C'est vraiment l'idée, c'est de se dire effectivement pour pouvoir noter une œuvre ou faire une analyse fine, il faudra que j'étudie 4 ans ce système, mais avec quelques concepts, je peux déjà me mouvoir, analyser certaines choses, regarder l'espace modifié par un corps. Enfin, je peux déjà, à certains endroits, comprendre et puis réutiliser.
Merci beaucoup, Valéria, pour votre temps. C'était très intéressant.
Merci à vous.
Merci, merci encore. Alors, je précise que vous pouvez suivre les actus de Valéria Giugia et de la compagnie Lapkin sur leur compte Facebook et leur site officiel lapkin.com. Et on espère vous retrouver sur le stand La Machine au Festival Idéal. Merci encore.
Merci.
C'était Corbin de Budgen. Vous êtes toujours sur Prune et on retrouve maintenant la troisième interview menée par Constance. Nous parlons fleurs et sexualité avec la conférence spectacle de la sexualité des orchidées créée par l'actrice et metteuse en scène Sophia Teillet. Bonjour Sophia, merci encore d'être ici.
Merci à vous.
Et c'est tout de suite l'interview de Curiosité.
Curiosité vie étudiante au TU de Nantes pour le festival Idéal.
Bonjour Sophia Teillet.
Bonjour.
Vous proposez donc un spectacle performance nommé De la sexualité des orchidées. Dans ce spectacle, vous incarnez une savante, une scientifique, et vous expliquez au public ce qu'a de fascinant la sexualité de cette plante et la façon qu'elle a de se reproduire. Alors dans la vraie vie, vous êtes comédienne et autrice, mais j'ai cru comprendre qu'à l'origine de ce spectacle, vous cherchiez à sortir de la forme classique du théâtre pour avoir un autre lien au public. Donc finalement, c'est un peu ce format de conférence-performance qui s'est imposé à vous avant même de trouver votre sujet, donc la sexualité des orchidées. Est-ce que vous aviez envie de pédagogie ?
Si j'avais envie... Déjà, vous êtes bien renseignée, bravo. Si j'avais envie de pédagogie, c'est ça la question ? Non, pas du tout. Mon envie première, effectivement, c'était l'adresse publique directe. Ce qui, je pense, qui m'intéresse au théâtre, c'est ce lien avec le public, le moment du présent qu'on est en train de partager ensemble. Et donc, c'est cette forme me paraissait assez radicale dans ça. Et c'est ensuite que j'ai trouvé le sujet qui était d'abord la reproduction végétale. J'avais pas les orchidées en tête. Et c'est vraiment à force de lecture que c'est l'orchidée qui s'est imposée comme actrice principale. Et j'avais pas forcément mon idée, c'était pas d'expliquer quelque chose aux gens, mais c'est enfin, en tout cas, c'est pas à ça que j'ai pensé. Il se trouve que c'est ça qui se passe maintenant, mais moi, ces recherches, elles me passionnaient, ça m'intéressait. J'avais l'impression de découvrir un monde j'avais envie de raconter ça, mais c'est marrant. Enfin, bon, là, en parlant, je me dis, ah bah oui, ça ressemble à de la pédagogie, mais j'avais jamais eu ce mot en tête. Oui, c'est probablement de la pédagogie.
Ok. quand on commence justement à s'intéresser aux orchidées, c'est vrai que c'est une plante qui a l'air d'être une matière artistique plutôt géniale. Et justement, vous commencez à en parler. À quel moment vous vous êtes dit, c'est ça, je tiens mon sujet, finalement, c'est la sexualité des orchidées, puisque ça ne s'est pas imposé tout de suite, visiblement.
Non, ça ne s'est pas imposé tout de suite, mais ça s'est quand même imposé relativement vite. En fait, j'ai commencé par faire un stage sur la conférence théâtrale. Et j'avais annoncé à la personne qui dirigeait le stage, qui est Frédéric Ferrer, j'avais annoncé que ma conférence porterait sur la reproduction végétale. Et donc, avant d'arriver au stage, j'avais fait la recherche sur les végétaux. Et en arrivant au stage, j'ai dit, en fait, j'hésite à prendre que l'orchidée ou les végétaux en général. Et c'est Frédéric qui m'a dit, non, prends que l'orchidée. Alors qu'il y connaissait rien, mais au niveau de l'écriture théâtrale, il m'a dit, il y a un truc qui sonne mieux, ça sonne plus, le fait que ce soit hyper précis, c'est mieux. Mais quand j'ai fait ce stage, je projetais pas de faire un spectacle. J'avais pas idée que je pourrais chercher pendant des années et arriver à faire un spectacle de plus d'une heure. Je pensais pas.
Alors on commence à en parler justement, effectivement c'est une plante assez fascinante dans l'image qu'elle véhicule, il y en a qui adorent cette plante, moi j'ai un peu l'image d'une méchante reine, enfin, mm-hmm. Je sais qu'il y a des gens qui sont fascinés par les orchidées,
oui.
Mais au-delà de l'image, vous au niveau scientifique, justement, mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a intéressé, fasciné
Non.
Ce qui est forcément plus dur.
Non, je peux pas vous dire parce que j'ai fait un spectacle d'une heure et quart.
Pour le dire.
Donc,
j'ai tenté.
Ouais, bravo, bien joué. Je comprends que vous le demandiez. Mais effectivement, je peux pas le résumer. Il faut savoir, je peux spoiler sans que ce soit incroyable, un des éléments du spectacle, c'est que c'est une des premières plantes à fleurs. Donc, c'est un végétal extrêmement ancien qui a... Bon, là, dans le spectacle, je dis 83 millions d'années, mais la dernière fois que j'ai vu une expo au sujet des orchidées, il disait 100 millions d'années. Donc, c'est un peu dur à chiffrer exactement, mais pour dire que c'est énormément de millions d'années. Et que donc, par conséquent, c'est un être extrêmement développé, extrêmement évolué, qui regorge de techniques pour réussir à survivre et à être au monde. Voilà.
Et j'imagine qu'il y a dû avoir une phase de recherche plutôt intense. Est-ce que vous vous êtes fait expliquer des choses par des scientifiques, et au-delà de ça, est-ce que votre spectacle il a été entre guillemets validé par des experts ou des expertes ou est-ce que justement surtout pas vous vouliez être plus dans la liberté artistique?
J'ai rien demandé à des scientifiques pour deux raisons. C'est que pendant longtemps je me sentais complètement illégitime à demander quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que quand je suis partie sur ce sujet, vraiment, j'y connaissais rien. Donc, j'avais un degré de connaissance zéro et je me disais, ça doit pas du tout être intéressant pour un chercheur ou qui que ce soit de répondre à des questions qui sont vraiment d'un niveau de première année de fac de bio, quoi. Donc, j'avais pas envie de mobiliser des gens pour ça. Je me sentais pas. Et surtout, je savais pas ce que je cherchais. C'était une recherche complètement empirique. Si bien que je n'avais pas de questions précises à poser à qui que ce soit, donc elle s'est faite au fur et à mesure de, enfin, elle s'est faite d'elle-même en fait. C'était une recherche de sérendipité, quoi. C'était un peu une recherche Wikipédia.
Et une fois que vous aviez toutes ces connaissances, est-ce que vous avez aussi la volonté de rendre plus accessible la parole scientifique ou ça n'entrait pas vraiment dans vos considérations finalement?
Ça rentrait pas dans mes considérations, c'est pas ça que j'ai pensé encore une fois, mais il se trouve que c'est ça qui se passe maintenant. Mais non, moi ce qui m'intéressait, c'était de transmettre ce que j'avais compris et que je trouvais fascinant.
Et en l'ayant fait maintenant, est-ce que vous pensez que ça peut être un des rôles des artistes ou de l'art d'amener des gens sur le chemin de sciences qui peuvent être en fait arides ou incompréhensibles?
Bah oui, je pense. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une demande des deux côtés, qu'il y a une demande en ce moment dans ce que je constate de la part des artistes que de s'emparer de sujets qui se veulent un peu du monde. Enfin, on monte plus trop des pièces. Enfin, certaines personnes montent des pièces, mais il y a toute une partie du théâtre où j'ai l'impression que les artistes s'emparent vraiment de sujets complexes qui nous sont retirés en tant que citoyens, etc. Et également une part de la science qui, généralement, a du mal à transmettre, qui se pose peu la question de la forme, et donc qui a du mal à transmettre ce qu'elle sait, ses connaissances, etc. Mais je pense que surtout ce qu'apportent les artistes, c'est le sensible. Et je sais que moi, les cours de bio que j'ai pas retenus, où j'étais mauvaise en sciences à l'école, en fait, je me suis rendu compte plus tard en cherchant sur les orchidées qu'il m'avait manqué le sensible, qu'on m'a expliqué les végétaux sans s'occuper de quelle corde ça faisait vibrer en moi. On s'est occupé de me dire des termes, d'apprendre des termes par cœur et des fonctionnements par cœur, puis des trucs assez froids. La science, elle a une façon de transmettre assez froide, où elle souvent elle est comme séparée de nous, alors qu'en fait c'est nous. Enfin.
Alors justement, pour parler de sensible, vous parlez de la sexualité des orchidées, mais en miroir, d'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas vu la pièce, c'est aussi notre rapport à la sexualité à nous qu'on peut lire durant votre spectacle. Est-ce que vous pensez que les plantes ont des choses à nous apprendre, enfin, par rapport à la sexualité?
Par rapport à la sexualité, je ne suis pas sûre. La première raison étant qu'il n'y a pas d'histoire de plaisir chez les plantes, pour l'instant. Enfin, de ce qu'on sait, ouais. En tout cas, il n'est pas question de plaisir. Si bien que, du coup, c'est pas forcément sur la sexualité qu'elles ont quelque chose à nous apprendre. Par contre, je trouve que sur la façon d'être au monde, en général, oui. Et d'ailleurs, je dis, sur la sexualité aussi. En fait, elles ont quelque chose. C'est des êtres vivants. Elles sont là et elles doivent vivre. Et donc, c'est comme nous. Donc, forcément, elles ont plein de choses à nous dire.
Mais c'est volontairement que vous tirez des parallèles entre nous et les plantes. Enfin, dans votre spectacle, c'est plutôt le public qui lit ça comme ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses dans ce sens. Est-ce que c'est vous ce que vous vouliez faire, ou est-ce que c'est plutôt le public qui reçoit ça comme ça?
Non, c'est le public qui reçoit. Moi, j'ai rien voulu imposer. Je crois que le spectateur triste peut se sentir très libre en regardant mon spectacle et faire ses ponts tout seul. Mais moi, je dis jamais rien. Après, j'ai conscience que je fais plein de ponts, que je fais des sous-entendus, qu'ils soient dans le vocabulaire, qu'ils soient physiques. Mais en fait, ils arrivent aussi d'eux-mêmes. Moi, en regardant les orchidées, en les observant, en lisant dessus, force était de constater que je m'y reconnaissais, enfin que je pouvais m'y reconnaître.
J'ai vu aussi, alors j'ai pas pu complètement le vérifier, mais que l'orchidée était une plante hermaphrodite.
Oui.
On dit ça. Donc à la fois mâle et femelle. Et je me demandais si c'était aussi l'occasion pour vous, dans le spectacle, d'aborder la question du genre, même si là encore on peut tirer des parallèles un peu.
Ben, même réponse qu'avant, c'est-à-dire que je trouve que c'est une façon d'aborder la question du genre, mais je vais rien ajouter à ça. L'orchidée est hermaphrodite, mais c'est le cas, en fait, c'est le cas de quasiment tous les végétaux. Il y a plus de 70% des végétaux qui sont hermaphrodites. Donc, j'ai rien à ajouter pour dire que ça se fait énormément chez d'autres êtres qui, a priori, sont et beaucoup plus anciens, et beaucoup plus puissants, et beaucoup plus intelligents que nous.
Ce qui en dit déjà beaucoup.
Voilà, mais je n'ai rien à dire de plus.
Je me demandais aussi si, à travers ce spectacle, vous... Je ne sais pas du coup si c'est formulé de la bonne façon, mais vous portez également un propos un peu militant sur notre méconnaissance du monde, enfin, le fait qu'on connaît très peu, finalement, le fonctionnement de notre écosystème, des plantes, etc.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, je trouve qu'on le connaît très peu. Enfin, je dis « on », c'était moi la première. Moi, j'ai commencé à écrire ce spectacle il y a des années. Et le fait, ça c'est 6 ans de recherche. Et pendant ces 6 ans, en fait, le fait de les comprendre, ça m'a fait énormément grandir dans un sens que j'ai aimé. Et oui, je trouve qu'on les connaît peu. Ça nous est présenté comme quelque chose d'assez décoratif, comme quelque chose d'immobile. Or, c'est extrêmement actif Et on a grand intérêt à se... Enfin, je sais pas, à les considérer comme nos égaux. Enfin, des colocs, quoi.
Qu'est-ce que vous tirez, vous, de cette épopée orchidéenne? Qu'est-ce que ça a changé? Enfin, est-ce que ça a changé pour vous quelque chose de votre regard, enfin du regard que vous posez sur le monde ou juste sur les végétaux, parce que c'est peut-être un peu large le monde.
Bah oui, oui, beaucoup. Et non, mais si les végétaux et le monde sur la vie en général, parce que ça m'a vraiment aidé, je pense, à comment dire, à me désanthropomorphiser. C'est ça le terme. Pardon, j'ai toussé et en plus j'ai dit un mot qui avait beaucoup trop de syllabes et dont je suis pas sûre. Mais j'en ai oublié. Ah oui, est-ce que ça m'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup changé mon regard sur le monde.
En quoi, du coup?
En quoi? Ben, c'est. En fait, on n'est pas du tout une espèce incroyable. Enfin, on se trouve hyper fort. Enfin, ça demande beaucoup de travail de comprendre qu'on est juste une espèce. Qui n'a rien d'exceptionnel. On est une espèce parmi des milliards d'autres espèces et on va disparaître comme les milliards d'autres espèces et c'est pas grave en plus.
Très bien. Je vais quand même reposer une petite question pour la fin parce que sinon c'est un peu...
Oui, pardon. Non, mais c'est...
Non, je rigole. Mais est-ce que finalement vous êtes réconciliée avec les orchidées?
Ouais,
j'ai cru comprendre que c'était pas le grand amour au départ.
Oui, oui, au départ c'était pas le grand amour, mais maintenant je les respecte énormément. Je les aime. Okay. J'en ai beaucoup chez moi. Enfin bon, je suis devenue collectionneuse. Non, j'aime les orchidées.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Sophia Théier, pour cette interview.
Bah, merci Prune. À vous.
Pour découvrir votre conférence performance de la sexualité des orchidées, c'est donc ce soir au TU à Nantes à 20h, mais aussi mercredi, jeudi, vendredi.
Oui.
Ça dure environ 1h15 et ça a l'air exceptionnel. Merci.
Merci.
Merci Constance et Sophia. Malheureusement, c'est déjà l'heure de nous quitter. Vous êtes cependant entre de bonnes mains puisque vous pourrez retrouver l'émission Mouvement de Foule dès 19h. Vous pourrez évidemment réécouter le podcast de cette émission sur le site prune.net. J'aimerais remercier encore une fois nos invités, mais également le TU qui nous a permis d'organiser cette émission spéciale. Évidemment, un grand merci aux membres de l'équipe de Curiosité, Manon et Constance aux interviews, Anthony à la chronique et l'équipe technique très nombreuse avec Louise, Seb, Mathis et Jeanne. Et enfin, un merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Et je vous dis à bientôt sur Prune.
Pour écouter cette émission spéciale Festival Idéal, rendez-vous sur prune.net, rubrique émissions.